11h05, deux sujets au cours de la prochaine heure qu'on passe ensemble. Je vous donne tout de suite, là, je l'oubliais tout à l'heure, ça fait tellement longtemps que je peux venir remplacer Isabelle. En passant, Isabelle sera de retour demain, je la remplace aujourd'hui seulement. Alors, donc, pour nous joindre, 790-9850 dans le 514, 1-866-790-9850. Mon courriel, marie-lavallée@commercialcogecomedia.com. Comme il y a quelqu'un qui me dit tout à l'heure, j'avais annoncé que je parlerais d'un communiqué. Et puis, elle me dit, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ben, je réponds tout simplement à cette personne que le communiqué n'était pas vérifiable. Alors, dans ce temps-là, on se tient loin des annonces qui pourraient ne pas être justes. Voilà. Réponse donnée. Au cours de la prochaine demi-heure, on va parler d'un sujet qui n'a pas été abordé énormément depuis le début de la pandémie. On en a parlé un petit peu, mais pas tant que ça. Les célibataires en temps de pandémie. La solitude, on en a parlé, mais les gens célibataires, que faire quand on est seul, qu'on ne peut voir personne, qu'on a des besoins affectifs, sexuels, comme tout le monde, mais qu'on nous demande en même temps de respecter le 2 mètres de distance, de porter le masque, de ne pas se visiter d'une maison à l'autre, on fait quoi? Certains arrivent à maintenir un grand niveau de discipline, mais certainement pas tout le monde. Avec notre invité, on va voir ce qu'il est possible de faire pour nourrir cette partie si importante des humains que nous sommes. Et croyez-moi, elle s'y connaît dans le domaine, elle est sexologue et psychothérapeute. Josée Leboeuf, bonjour.
Bonjour Marie-Claude.
Josée, tous les jours, est-ce qu'on se tutoie, Josée? Je me souviens plus.
On se tutoie, oui, on s'est déjà vu plusieurs fois.
Oui, ça, je me souviens très bien, mais j'oubliais si on se tutoyait ou on se vous voyait. Alors bon, donc Josée, tous les jours, toi, tu côtoies des gens qui souffrent de cet isolement. Qu'est-ce qu'ils te disent?
Ben c'est ça, depuis le début de la pandémie que je me dis cette facette-là de l'être humain qui est tous les besoins affectifs, de chaleur humaine, tout ça, c'est complètement occulté. On n'en entend jamais parler dans les points de presse ou autrement dans les médias ou très, très, très rarement. Et j'ai, au début de la pandémie, ma clientèle célibataire, qui est quand même une bonne proportion de ma clientèle, me disait, ben c'est dangereux, on fait attention, on ne voit plus personne, on reste chez nous, on ne touche plus à personne, on n'a plus de vie sexuelle. C'était cute quand ça faisait 2 semaines, 1 mois, 2 mois, mais là, 14 mois à peu près plus tard, c'est plus drôle, là. Il y a toutes sortes de configurations, de modes de vie, là. Dans la vie, c'est pas tout le monde qui est marié, qui est en couple, qui a encore des réponses à ses besoins affectifs et sexuels. Et je perçois la détresse qui s'installe de plus en plus chez ces clients-là, ou la dérogation aux mesures sanitaires, faut le dire, parce qu'à un moment donné, ils sont plus capables. À un moment donné, l'humain a besoin de toucher, a besoin d'être cajolé, d'être câliné. En tout cas, la plupart d'entre eux. Il y aura toujours des ermites dans la vie, des gens qui n'ont pas besoin de ce type de contact-là, et ça les dérange pas trop. Mais je suis ici surtout pour parler de ceux qui en souffrent de ça. Et c'est pas, on en parle très peu, donc je vous remercie de me donner quand même cette opportunité-là.
Ah, mais c'est un sujet tellement important, mais tellement important, parce que l'humain, on est fait pour être, tu sais, pour câliner, pour prendre ceux qu'on aime dans nos bras. Moi, j'ai tellement hâte de serrer ma mère dans mes bras. J'ai tellement hâte de serrer mes amis dans mes bras, mon frère. Je dis, c'est humain, c'est un besoin essentiel, élémentaire.
Tout à fait. Puis j'ajouterais que en particulier quand on souffre.
Oui,
quand ça va pas bien dans la vie, là, tu vis une épreuve difficile, t'as passé au feu, il y a une inondation dans ton quartier, on le voit à la télé, qu'est-ce que les gens font? Ils se prennent dans les bras. Qu'est-ce que les gens font? Ils vont chercher du réconfort chez leurs proches. Là, on vit tous, à des niveaux, des degrés différents, cette pandémie, mais on a tous un certain degré de détresse, je dirais, ou de souffrance. Mais ce qui nous ferait le plus de bien, on peut pas le faire. Donc, on est encore plus seul dans cette souffrance-là. Et puis, c'est sûr que moi, comme sexologue, ce que j'ajoute, puis le petit point, la petite précision que j'amène, c'est qu'est-ce qu'on dit aux gens qui vivent tout seuls ou en colocation ou des adultes qui vivent encore chez leurs parents qui n'ont pas eu de câlins, qui n'ont pas été touchés, embrassés par personne depuis plus qu'un an?
Et justement, qu'est-ce que tu leur dis, Josée?
Écoute, l'important, là, c'est on peut pas atteindre le risque zéro, hein, que ce soit en médecine ou en sexo ou n'importe où ailleurs. Il y a toujours un certain niveau de risque que les gens acceptent, auquel les gens s'acceptent de s'exposer. C'est sûr que la monogamie, c'est la meilleure chose en ce moment parce qu'on a un ou une partenaire, tout le monde respecte cette exclusivité-là, puis on répond à nos besoins affectifs avec cette personne-là, pour autant que cette personne-là va pas voir ailleurs. Mais c'est pas tout toujours possible. Il y a des personnes qui ne vivent pas la monogamie. Il y a des personnes qui fréquentent plusieurs partenaires. Et ça ne s'est pas arrêté, ça, en mars 2020.
Ben, moi, je t'avoue, Josée, j'ai été étonnée. Je demandais à Isabelle, notre merveilleuse recherchiste, de te demander justement si les sites de rencontres, les Tinder et compagnie, parce qu'il y en a toutes les sortes, si ça fonctionnait pareil avec la pandémie.
Oui,
puis elle me dit, Marie-Claude, plus que jamais. Alors là, il y a, surtout quand on sait pourquoi Tinder existe, si je me fie en tout cas à mes jeunes amis, ben c'est ça, c'est comme dans le but de rencontres sexuelles, dans bien des cas.
Pas que ça, mais je veux dire, disons qu'il y a des... Il y a quand même eu un moment durant la pandémie, je dirais plus en 2020, où les gens utilisaient les sites et les applications de rencontres et clavardaient, tu sais, textaient longtemps avec les personnes, apprenaient à se connaître, faisaient de la visioconférence, du Skype, du FaceTime, tout ça, pour apprendre à se connaître. Après ça, ils allaient prudemment marcher dans un parc à 2 mètres de distance. Et ça a fait des belles expériences. Il y a des gens, moi, qui m'ont dit, mon Dieu, avant, je serais passée au lit avec la personne beaucoup plus rapidement, alors que là, j'ai appris à la connaître avant. Puis ça, ça fait partie des belles expériences. Mais j'ai aussi eu des clients qui m'ont consulté pour des dysfonctions sexuelles et qui me parlaient de leur fréquentation comme si on était en 2018, là. Il y en avait 3-4 différentes par mois. Puis là, des fois, je leur disais, vous réalisez qu'on est en pandémie. Comment vous vous sentez là à vous exposer peut-être à ce risque-là? Il y en a que ça faisait réfléchir, tu sais, mais je suis forcée de constater qu'il y a des gens pour qui la dimension sexuelle ne s'est pas arrêtée et elle ne s'arrêtera pas.
Et pourquoi, d'après toi? Parce que l'élan est trop fort. Est-ce que tu vois ça plus chez des jeunes, des moins jeunes? Parce que...
plus chez des jeunes, effectivement. Mais ça, c'est mon expérience dans mon bureau. Là. Ça ne veut pas dire que c'est généralisable à la population au complet. Mais oui, c'était plus chez les jeunes. Et probablement, j'ai souvent dit dans différents contextes là, depuis un an, Marie-Claude, que le niveau de risque par rapport à la COVID que les gens sont auxquels les gens sont prêts à s'exposer là, depuis un an, ça ressemble un peu au discours que les gens ont par rapport aux infections transmises sexuellement. Il y a des gens qui sont très prudents, tu sais, qui disent « ben moi, je me protège, je mets un condom, je limite mes partenaires, on se fait tester », tu sais, puis qui sont très prudents au niveau de leur santé sexuelle. D'autres font à peu près n'importe quoi avec n'importe qui et se sentent pas concernés, se sentent à l'abri. Puis j'ai l'impression que ça ressemble un peu à ça, la façon dont les gens considèrent les risques, là, liés à la COVID. La différence, c'est qu'on peut, les ITS, on peut quand même avoir des relations sexuelles en utilisant le condom, en ayant des pratiques sexuelles sécuritaires.
Oui, mais là, s'embrasser COVID, avec deux masques, là.
Bien, s'embrasser, tu sais, ça, là, c'est les deux phrases qu'on a dites, là, en tout cas, que moi, j'ai entendues dans tous les points de presse depuis un an, là, au sujet de la sexualité, c'est la monogamie a bien meilleur goût et porter le couvre-visage pour faire l'amour. Moi, j'ai pas besoin qu'on fasse de dessin dans la vie, là, mais un couvre-visage pour faire l'amour, ça m'apparaît très irréaliste. Et je connais personne qui a essayé ça depuis un an, là.
J'en connais pas non plus. La question
qu'est-ce
est excellente, puis on va arriver aux solutions tout à l'heure, ça c'est sûr et certain, parce que je veux tes pistes de solutions, mais je veux redonner le numéro de téléphone parce que je tiens à ce que les gens à l'écoute soient dans la discussion aussi. 1-866-790-9850 ou 514-790-9850. C'est important, je veux vous entendre sur comment vous vivez cette absence de contact physique, ou est-ce qu'au contraire, vous avez décidé, vous, de faire comme si la pandémie n'existait pas? Isabelle me fait signe qu'on a quelqu'un. Oui. Éric, au téléphone. Bonjour, Éric.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, vous?
Oui, juste parce que la dame est avec vous, elle dit que les partenaires multiples étaient plus en grand nombre chez les jeunes. Moi, je peux vous dire que les 50 ans plus, moi, personnellement, j'ai eu 2-3 partenaires, même des fois différents par semaine. La mode est aux amis avec avantage. Puis, on en a profité pour agrandir notre cercle d'amis avec avantage durant la pandémie, justement, parce que les fréquentations étaient moins...
Mais vous n'avez pas peur, Éric? Ça vous fait pas peur, la COVID?
Non, je peux vous dire, personnellement, fait un an et demi que j'ai des amis avec avantage, puis... Non, personnellement, là, ça n'a pas changé dans mon groupe de fréquentation, mais pas du tout. C'est peut-être plus caché, mais je peux vous dire pertinemment que moi, j'ai vécu une expérience avec peut-être depuis un an plus près d'une douzaine de partenaires différents.
Fait que c'est, donc vous n'avez pas peur pour vous, puis vous n'avez pas peur de vous n'avez pas peur, Éric, pour vous, puis vous n'avez pas peur de contaminer quelqu'un que vous aimez autour de vous.
C'est un cercle très fermé. Personnellement, tout le monde fait attention. On est des gens des professionnels dans des secteurs très très peut-être un peu plus fermés, mais bon, je peux vous dire personnellement que la mode des gens de 50 ans en plus, on est amis avec avantage.
Bon. Éric, avec votre permission, je veux que Josée vous parle comme si vous la consultiez. Josée, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un comme ça dans la cinquantaine qui a des partenaires multiples et qui n'a pas peur de la COVID et qui n'a pas peur de la donner à d'autres?
Peu importe ce que je pourrais lui dire, de toute façon, il prend ses risques selon sa capacité de les tolérer. Ça changerait pas grand-chose. Oui, effectivement, j'ai dit tantôt que c'était plus chez les jeunes. Ce que j'ai dit aussi, c'est que c'était dans ma clientèle.
Dans ton bureau.
Ce que moi, je constatais, mais ça, j'ai aucunement moi l'idée de dire qu'il n'y a pas d'autres groupes d'âge qui font la même chose. Et effectivement, 50 ans et plus, des gens qui ont été, qui ont eu des vies de couple, qui se sont séparés, divorcés, qui retrouvent le célibat, qui reprennent leur liberté suite à un divorce. J'en ai aussi dans ma clientèle et il y en a qui n'ont pas arrêté de se fréquenter ou d'essayer de trouver des nouveaux partenaires depuis la pandémie. Et c'est sûr que après, qu'est-ce qu'on peut dire? Monsieur va continuer à faire ses choix comme l'ensemble de la population le fait. Il faut demeurer prudent.
Moi, je suis quand même troublée, Josée, par une chose. Et Éric, oui. Vous m'excuserez, là, je ne porte pas un jugement personnel sur vous, de quelque façon que ce soit. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est le manque d'empathie envers les gens qu'on peut contaminer.
Ça s'adresse à monsieur ou
à toi? À toi. Parce qu'à un moment donné, il y a de ça aussi dans la volonté de faire attention à l'autre ou de se protéger ou de ne pas aller justement vers... Je ne juge pas. Là. Je ne suis pas en train de dire
il ne
devrait pas, nanana. C'est pas ça que je fais. Mais je me pose juste la question sur cette notion de prendre soin de l'autre.
C'est une question d'empathie. Après, c'est une question de conscience sociale. Après, puis chacun est différent par rapport à ça.
Ouais,
bien loin de moi l'idée de juger moi aussi. J'essaie de comprendre. Quand c'est dans ma clientèle, j'essaie de comprendre. Tu sais, je pose des questions. Je vais essayer de voir avec la personne comment elle gère son niveau de risque. Comment elle sent. Mais si la personne veut en parler, bien sûr, là, c'est pas moi qui décide de quoi sont faites les consultations. Mais quand la personne s'interroge sur cette problématique-là, je vais essayer de voir avec elle. Et si ça arrivait? T'sais, et si ça arrivait que tu transmettes la COVID à quelqu'un que tu aimes parce que tu as pris ce risque-là? Comment tu penses que tu pourrais gérer ça?
Ouais.
Donc, et les gens vont évaluer leur niveau de tolérance au risque. Mais mon point aujourd'hui, c'était d'amener au moins dans les médias, quelque part, l'idée que c'est pas tout le monde qui reste à 2 mètres de tout le monde depuis un an. Il
ne
faudrait
clair.
Pas penser ça.
C'est
pas tout le monde qui est marié non plus, qui est en couple, qui est monogame depuis longtemps. Et il y a cette incohérence-là aussi. Quand on entend des personnes qui, elles-mêmes, sont mariées en couple harmonieux, tout ça, qui vont bien, qui disent aux autres « Restez à 2 mètres de tout autre être humain qui ne vit pas à la même adresse que vous. » C'est comme quelqu'un qui a le ventre plein qui dirait à quelqu'un qui a faim « C'est pas si grave que ça pour manger pendant une semaine.
Ouais, » ouais.
C'est comme la personne qui est mariée, qui est en couple, elle les réponses à ses besoins affectifs, sexuels.
Oui, et puis les gens qui ont perdu des êtres chers ont peut-être des opinions différentes aussi sur les comportements qu'on doit ou ne doit pas avoir. Enfin bref, comme je dis, je répète, Josée, là, je suis pas dans le jugement des gens ce matin, c'est pas du tout mon intention. Myriam est au téléphone. Myriam, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Myriam.
Oui, mais pour faire un préambule avant la pandémie, j'ai vécu quelque chose d'assez assez dur. Ma fille est morte subitement. Elle avait 17 ans.
Yip-a-l'ay.
Ouf. Et en 2018. Donc, puis un mois après, je me suis séparée. Je me suis envenue de rester toute seule. J'ai été peut-être un an dans la vraie brume, là, comme on dit. Là. C'est pas là.
On peut imaginer avec
ça.
Une tragédie
c'est
pareille.
C'est traumatisant.
Ouais.
J'ai eu un choc post-traumatique. Puis, en tout cas, bon. Puis, après ça, la pandémie, ben, un an et quelques après, ça a commencé. Puis, comme Éric disait, moi, j'appelle ça des amis santé. Là. Puis j'aurais pu peut-être en avoir. J'aurais pu, mais moi, à cause de la COVID, voir du monde mourir, du monde que je connais, ça ne me tentait pas non plus. Hein?
Donc, vous vous abstenez d'avoir des relations.
Oui. Bien, pas juste les relations sexuelles, là, d'avoir de l'affection, peu importe. Puis on peut pas non plus. On pouvait pas, puis on va peut-être pouvoir à un moment donné, mais moi, dans ma tête, c'était tellement je veux pas faire un câlin à quelqu'un si je l'ai, puis je le sais pas, puis je vais perdre peut-être cette personne-là, que ce soit ma mère ou une amie, un ami ou quoi que ce soit.
Oui.
Ça illustre. Si je peux me permettre, ça illustre très bien ce que je disais tantôt. Il y a des personnes qui vont choisir de s'abstenir de tout contact justement parce qu'ils ont cette conscientisation-là, qui ont cette peur-là, qui n'est pas partagée par tout le monde, malheureusement. Mm-hmm. J'aimerais ça vous demander, ben, si vous voulez le dire à la radio, bien sûr, là, mais j'aimerais ça vous demander comment vous trouvez ça, cette solitude-là, depuis un an? Est-ce que c'est très difficile pour vous ou vous le vivez quand même assez bien?
Là, présentement, là, depuis quelques mois, là, je suis en train de sombrer, là.
Ouf. Ah oui, c'est difficile, hein?
Mais je veux dire, j'ai un médecin de famille qui est proche de moi, puis tout ça, fait que je peux toujours l'appeler si j'ai besoin. J'avais une psychiatre, mais elle ne voulait pas parler du décès.
Mm. Oh là là!
Donc, oui, elle était spéciale.
Ça, c'est assez particulier, en effet.
Oui,
Myriam,
mais bon, ça, c'est autre chose.
Oui, Myriam, je veux absolument vous offrir nos sympathies, même si c'est quelques années plus tard. Ce deuil-là est important pour vous. Et j'apprécie que vous nous ayez téléphoné et que vous ayez partagé avec nous ce que vous faites, ce que vous vivez, la façon de le vivre. Merci infiniment, Myriam. José, on va s'arrêter le temps d'une petite pause et on poursuit tout de suite après. Je redonne le numéro de téléphone, 514. 790-9850-790-9850. Comment vous vivez ce manque de contact physique? On vous écoute après la pause et on revient avec José Leboeuf, sexologue et psychothérapeute après ceci. Oui, on poursuit sur ce sujet de la solitude de COVID, si je puis dire, le manque de contact physique pour les célibataires, les gens qui sont seuls. On est en compagnie de José Leboeuf, qui est sexologue et psychothérapeute. José, il y a Christiane au téléphone qui veut nous parler. Christiane, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Christiane.
Merci. Moi, depuis le début de la pandémie, au mois de mars 2019, j'ai eu aucun contact.
2020,
physique.
Oui. Mm-hmm.
Excuse, 2020.
Oui, oui.
Aucune accolade, rien. Le, en plus, ben, mes enfants ne viennent pas me voir parce qu'ils ont peur de me le donner. Fait que ma santé physique n'est pas bonne, mais là, c'est en train d'atteindre ma santé mentale parce qu'ils ne viennent pas parce qu'ils ont peur de me le donner. Fait que c'est une grande solitude, beaucoup d'isolement, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur.
Oui.
Je peux pas dire bonne nuit à quelqu'un avant de faire dodo. Il y a plein de choses qui entourent ce non-touchage de peau-là.
Oui. Dites-moi, Christiane, vos enfants peuvent même pas venir vous voir dehors?
Oui, ma fille est venue dehors, mais c'est tellement différent. On jase pas des heures et des heures.
Okay.
Soit elle vient me porter des choses, soit elle vient me dire allô. Elle reste dans les escaliers parce qu'eux autres, depuis le début, qui respectent...
les consignes.
Oui, puis à la lettre. Des fois, quand ma fille, elle vient, c'est automatique. Je veux faire des pas vers elle pour aller chercher un câlin, puis elle recule.
Oui.
Parce que moi, c'est normal pour moi de m'approcher.
Oui, c'est tellement humain. Christiane, j'aimerais entendre José. José, tu as sûrement quelque chose d'important à dire à Christiane.
Christiane et l'autre personne qui a parlé avant, Marie-Claude, expriment cette détresse-là là, qui commence à se faire sentir, que je disais au début de l'émission. Moi, je commence à l'entendre dans ma clientèle aussi, de dire que c'était correct là, après un mois ou deux, mais là, après 14 mois, là, ça commence à être vraiment pas drôle. Est-ce que ça va passer par une autorisation de petits rassemblements? Tu sais, c'est pas moi qui prends les décisions, ni toi, Marie-Claude,
non.
Mais le fait qu'on entende encore les autorités dire « aucune visite à la maison », là. Jusqu'à quand, ça? Moi, je pense, de toute façon, ceux qui veulent en avoir, ils en ont déjà. Ils les contournent, les règles.
Oui, José, j'ajouterais même aussi, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, on va arriver à un moment où ils vont dire, ben, mettez-vous chacun un masque, puis oui, collez-vous. Ça, je parle de famille,
moi,
là, tu sais.
Écoute, tout à fait, tu as tout à fait raison. Et je pense, là, que si on avait l'autorisation officiellement de faire ça, faites-vous des câlins, même avec un masque, ou à la limite, collez-vous dos à dos, là, sur un divan.
Ouais,
au moins, les visages ne sont pas trop proches, mais allez chercher cette dose de chaleur humaine. Là, c'est que les gens qui se conforment ont peur de se faire attraper. Il y en a, moi, qui m'ont dit « J'ai peur que les voisins appellent s'ils voient de la visite chez nous. Je ne veux pas payer 1 500 $ d'amende. » Donc, mais ceux qui veulent les contourner, les règles les contournent déjà. Donc, il faut trouver des façons. Si Christiane vit seule, techniquement, selon, on me corrige là, si je me trompe, mais selon les consignes, quand on est une personne qui vit complètement seule, on a le droit d'avoir la visite d'une autre personne
seule.
Tout à fait.
Que ce soit toujours la même.
Dans ses bras, toujours la même. mais on a le droit. Donc, cet isolement-là, j'espère qu'elle va en prendre soin. Si je peux me permettre aussi peut-être ajouter une petite chose avant qu'on se quitte. Le fait que ce soit défendu là, d'avoir une vie amoureuse et sexuelle si on ne vit pas à la même adresse, ce que ça a fait aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont attrapé des ITS et qui n'osent pas aller se faire tester. Parce qu'aller se faire tester, c'est dire à un médecin, j'ai eu des relations sexuelles, j'ai eu des partenaires, alors que c'est illégal. Donc, les gens ne se font pas assez tester. Et il y a eu une recrudescence des infections transmises sexuellement. On a vu dans les médias des commentaires à ce sujet-là du docteur Régent Thomas, là, tout récemment, la semaine dernière, je crois. Les chiffres des augmentations des ITS sont là. Ça veut dire que les gens ont une vie sexuelle, mais s'ils sont gênés d'aller se faire dépister parce que c'est d'admettre qu'on a contourné les règles, on a un autre problème, là.
Ben, écoute, de toute façon, Josée, je pense qu'il y a même des gens qui hésitent à aller se faire tester parce qu'ils ont peur de se faire disputer au bureau puis tout ça, même pour la COVID, là, je te dis. Tu sais, fait que
oui,
je peux imaginer
ça, oui, tout à fait.
Pour une maladie, une infection transmise sexuellement. On va prendre un dernier appel de Caroline. Caroline, Josée et moi, on vous écoute.
Oui, bonjour. Alors, écoutez, j'entends les témoignages puis j'ai quelque chose à rajouter, mais je vous dirai que moi, j'ai 62 ans, j'en ai l'air de 50, j'ai fait du dating Internet, je pratique pas la promiscuité, mais même avant la COVID, j'ai remarqué que dans mon cas, c'est des hommes. Les hommes racontent des histoires, ils en voient plus qu'une à la fois, ils disent qu'ils ont eu des tests qui sont sécuritaires, et c'est pas vrai. Alors, quand la COVID est arrêtée, moi, mon anxiété, c'était seulement le fait que je perds du temps à rencontrer. Parce que ça me réjouit pas de penser que je vais être seule pour le restant de mes jours. Je fais beaucoup de sport, alors je vais aller faire du ski, je prends des marches, je fais des activités. Mais c'est sûr qu'avec un masque, et c'est très très difficile de même avoir des relations sociales avec les gens. Mais quand j'écoute les autres femmes, ce que je veux leur dire, c'est qu'il faut se débrouiller. Moi, j'ai convenu avec des amis de filles de prendre des marches dans le bois. Très tôt ou très tard, de m'occuper, de développer mes amitiés. C'est sûr que c'est pas facile, mais avec l'Internet, il y a des choses possibles, c'est-à-dire qu'on peut se rencontrer pour aller dehors, pour faire des marches, pour faire des activités à distance.
Tout à fait.
Puis moi, ma fille, ben, je la vois, on prend des marches, on fait plein de trucs à l'extérieur. On est au Québec, mais on est des Nordiques. Rester dehors, aller dehors. Je sais que pour les gens qui ont un appartement et qui n'ont pas de terrain ou de cours, bien, je veux dire, il y a quand même la rue, là.
Oui, et puis la cour, un petit pique-nique dehors, en gardant de bonne distance parce qu'on enlève le masque. Banc de parc, où est-ce qu'on s'assoit chacun à l'extrémité du banc de parc. Je ne sais pas si c'est 2 mètres, mais c'est pas loin, certain. Puis on peut, si on pense que c'est pas 2 mètres, se tourner un peu, là, pour pas se... Enfin, il y a des possibilités. Caroline, je vais devoir vous interrompre parce que ça va être le moment de conclure sur cette partie de l'émission. Josée Leboeuf, donc, sexologue et psychothérapeute, j'aimerais... En guise de conclusion, oui, tu peux répondre à Caroline, mais aussi dire aux gens ce que tu recommandes aux gens qui veulent quand même avoir des liens, mais de façon sécuritaire.
Bien, de réduire les risques, donc de réduire le nombre de partenaires, c'est sûr. Et, écoutez, je suis vraiment pas en train de dire aux gens de pas respecter les consignes de la santé publique, loin de là, mais... si vous êtes pour le faire, faites-le de façon sécuritaire. La même chose que je dirais avec les infections transmises sexuellement. C'est sûr que d'avoir un seul ou une seule partenaire en temps de pandémie, c'est le scénario idéal. Et si vous êtes capable de vous abstenir, de vous mettre à risque, ben c'est sûr que c'est tant mieux. J'espère aussi qu'avec la vaccination, ça va devenir plus facile avec les mois qui s'en viennent. Et j'espère sincèrement que les petits rassemblements prochainement seront autorisés, ne serait-ce que pour éviter d'entendre des personnes comme nos auditrices dire « je suis en train de sombrer, j'ai besoin qu'on me touche, j'ai besoin que quelqu'un me fasse un câlin » et c'est pas encore permis, à moins de contourner les règles. Donc, si ça pouvait être adouci prochainement, c'est un souhait que j'ai beaucoup, mais en attendant, exposez-vous au moins de risques possibles pour vous et pour les autres.
Très belle conclusion, José Leboeuf. J'espère que la santé publique nous entend, parce que je sais, ils sont conscients, la santé publique, qu'il y a de plus en plus de détresse dans la société. On lit des articles là-dessus presque chaque semaine, mais il faut faire quelque chose. Je pense que ça commence à être très, très urgent, très important de s'occuper de ces gens qui, justement, respectent les consignes, mais qui en paient le prix autrement, c'est-à-dire par une détresse, par un découragement total. Moi, je tiens
aussi...
Donc,
il faut prendre soin.
Oui,
il faut prendre soin de cette détresse-là.
Tout à fait. Puis moi, je dis aux gens, essayez de vous raccrocher à ce qu'il y a de beau dans la vie. Isabelle recevait le docteur Serge Marquis hier matin. Je l'ai reçu il n'y a pas très, très longtemps, une autre émission. Et j'oublierai jamais ce qu'il nous a dit, qui était que quand lui-même se sent désespéré face à tout ça, il disait, je me demande toujours, quel est mon pouvoir en ce moment? Et personne, disait-il, va m'enlever le pouvoir d'apprécier le chant des oiseaux au printemps, le soleil du printemps, la pluie du printemps. Et je ne sais pas, j'avais envie de le répéter parce que moi, je sais que ça m'a fait du bien d'entendre ça, de ne pas oublier que malgré tout, on a toujours un petit pouvoir de choisir peut-être un petit peu nos pensées. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, José.
Tout à fait, c'est très bien dit.
Ben écoute, merci infiniment. Ça a été un plaisir de te parler. C'est très utile, c'est très intéressant, très pertinent. José Leboeuf, sexologue, psychothérapeute, un énorme merci. On va s'arrêter maintenant pour une petite pause et après on change de sujet, mais complètement, quoi qu'on reste un petit peu dans une forme de une situation qui est-ce qu'elle est COVID? Je pense même pas, mais je vais vous le dire, en fait. Une ville, Dorval, pour ne pas la nommer, qui a décidé de faire payer les tables à pique-nique dans deux de ses parcs pour l'été prochain. J'ai hâte d'entendre Léa Strelitzky, qui a son opinion là-dessus. Elle est maman, elle sait ce que c'est que d'aller dans un parc faire un pique-nique. On revient avec ce sujet après cette pause.